VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 14h à Ouagadougou, 15h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Sénégal, nouveau heurt entre étudiants et forces de l'ordre ce mercredi dans plusieurs universités du pays au lendemain de la mort d'un étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis lors d'une confrontation avec les gendarmes. À Dakar, jette de pierre des étudiants sur la police, laquelle réplique par des tirs de grenades lacrymogènes aux abords de l'université Cheikh Anta Diop, la plus grande du pays. Et à Ziguinchor, la métropole de la Casamance dans le sud, des étudiants ont également affronté la police, qui a là aussi fait usage de gaz lacrymogène. À l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, où les troubles ont commencé mardi, les étudiants ont organisé une procession jusqu'au lieu où est tombé leur camarade décédé. Et ils y ont observé un moment de prière. La mort de l'étudiant, un fait rare au Sénégal, a suscité une vague d'émotion dans le pays et mardi soir, le président sénégalais Macky Sall a fait part de sa profonde émotion et a indiqué avoir instruit le gouvernement de faire toute la lumière sur l'incident et de situer les responsabilités. Les étudiants protestaient hier contre le non-paiement de leur bourse. Le gouvernement leur a donné satisfaction dans ce domaine. Niger, le gouvernement nigérien a annoncé ce mercredi la réouverture du campus universitaire de Niamey, le plus important du pays, fermé depuis le 18 avril, après des troubles. La décision de rouvrir le campus intervient après la levée lundi d'une grève illimitée des étudiants, a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur, Yaouza Sadissou, sur une télévision locale. Rappelons que l'USN, l'Union des scolaires nigériens, un syndicat qui recrute du primaire jusqu'à l'université, avait lancé cette grève illimitée le 20 avril pour exiger l'annulation de l'exclusion en mars de 5 étudiants, la réouverture du campus de Niamey et l'abrogation d'une décision du rectorat autorisant les forces de l'ordre à assurer la sécurité de l'université. Au Burkina Faso, le préfet d'Oursi, une localité frontalière du Mali, a été tué dans la nuit de lundi à mardi par des djihadistes présumés. Ces deux dernières années, cette région du nord du pays a été la cible d'au moins 80 attaques djihadistes qui ont fait 133 morts, selon un bilan officiel. Pour en savoir un peu plus sur cette dernière incursion, Bagassi Koura a joint Bourema Ouédraogo, directeur de publication du journal Le Reporter.
Là, ça commence à faire trop fort, parce que quand même, c'est dans un département, c'est le représentant du chef de l'État, c'est le représentant de tout le gouvernement. Donc, si on arrive effectivement à ce niveau de ciblage des autorités, parce qu'il y a comme une sorte de montée en puissance, souvenez-vous que c'est un maire, le maire de Koutoukou, qui a été assassiné dans sa commune.
Le 8 avril.
Ensuite, aujourd'hui, un préfet de département. Ça montre aussi que les terroristes, ou en tout cas, les terroristes ou les groupes qui sont à la base de ces attentats civils sont en train de monter en puissance. Et c'est pas rassurant, parce que si on peut avoir atteint les premières autorités dans un département, ni plus autre ne peut que tant être à l'abri dans ce département.
Alors, le préfet a été assassiné, le maire de Koutoukou a été assassiné le 8 avril. Il y a eu des enseignants par centaines qui ont fui la région. Est-ce qu'on peut dire que la stratégie sécuritaire du gouvernement marche?
Là, toute la difficulté, on commence à douter effectivement de l'efficacité de la stratégie du gouvernement. Parce qu'on avait pensé qu'avec l'annonce de la réouverture du tribunal de grande instance de Dibo, la réouverture de certaines écoles dans la zone, le gouvernement était en train de reprendre la main. Mais avec ce nouveau drame, on se rend à l'évidence qu'on est loin de la reprise en main de la situation.
Quelles sont les réactions au niveau de Ouagadougou, la capitale?
Sur la consternation, sur la stupéfaction, parce qu'au niveau de Ouagadougou, les gens ne pensaient pas qu'on allait arriver là. Qu'on pouvait arriver là, mais finalement, on se rend compte que ce qu'on redoutait est en train d'arriver. Et il y a de fortes chances que ça provoque encore un nouvel exode de fonctionnaires et autres agents publics dans la zone.
Bourema Ouédraogo, directeur de publication du journal Le Reporter à Ouagadougou, au Burkina Faso. Au Nigeria, Ibrahim Zakzaki, le leader chiite nigérien emprisonné depuis plus de 2 ans, a comparu mardi devant un tribunal d'Abuja. L'audience portait sur les affrontements meurtriers de 2015 entre ses partisans et l'armée nigériane. Marie Benson.
C'est seulement la deuxième fois que Zakzaki, chef du mouvement islamique du Nigeria, apparaissait en public depuis son arrestation en décembre 2015. Sa femme et lui sont incarcérés à Abuja pour homicide volontaire, attroupement illégal et trouble à l'ordre public. Leur état de santé semble s'être dégradé. L'avocat des accusés, qui n'avait jamais été autorisé à les rencontrer, a pu parler quelques minutes avec Ibrahim Zakzaki. L'audience s'est tenue à huis clos, sous bonne garde des forces de sécurité. En l'absence d'autres accusés, le procès d'Ibrahim Zaksaki a été ajourné au 21 juin prochain. Fin 2016, le tribunal fédéral avait autorisé sa libération, mais les autorités nigérianes l'ont maintenu en détention. Ibrahim Zaksaki souhaitait établir un État islamique chiite au Nigeria. Ces dernières semaines, ses partisans ont organisé de nombreuses manifestations pour réclamer sa libération.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, au Congo-Brazzaville, le procès du général Norbert Dabira, poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, est en cours depuis hier devant la cour criminelle de la capitale. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. Je suis devant la barre à cause d'un mensonge, a déclaré le général Norbert Dabira, ancien inspecteur des forces armées. Il est accusé d'avoir voulu recruter deux tireurs d'élite pour abattre l'avion du président Denis Sassou Nguesso. L'acte d'accusation évoque des conversations téléphoniques en novembre 2017 entre les généraux Dabira et Nyanga Ngatse Mbuala. Ce dernier, ancien combattant de l'unité d'élite chargée de la protection du président, est cité en qualité de témoin. La défense a évoqué l'immunité juridictionnelle de son client, qui a été élevé au rang de dignitaire en 2001. La cour a rejeté cette demande. Le général Dabira a été arrêté en janvier 2018. Son procès intervient 4 jours après celui du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui a été condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. La défense de Mokoko a annoncé lundi son intention de saisir les juridictions internationales. Un autre candidat à la présidentielle de 2016, André Okombi Salissa, arrêté lui aussi en janvier 2017 pour atteinte à la sécurité de l'État, attend la date de son procès.
Au Cameroun, des sanctions pour violation des droits humains pourraient être prises à l'encontre de certains gendarmes déployés en zone anglophone. C'est ce qu'a annoncé mardi Joseph Béthi Assomo, le ministre camerounais délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Les faits reprochés aux gendarmes ont eu lieu lors de l'interpellation d'un suspect impliqué dans l'assassinat de membres des forces de défense et de sécurité camerounaises. Plus de détails avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
Les gendarmes en question sont auteurs d'une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux et dans laquelle un homme apparaît ligoté, face contre sol, gisant dans du sang, et une éboueuse recevant par ailleurs d'incessants coups de machette. La scène se déroule dans l'enceinte d'une brigade de gendarmerie en zone anglophone. L'homme ainsi malmené se nomme Tchoboyi Alphonse Tatia, présenté comme le commandant de l'Ambazonia Defense Forces, un groupe d'hommes armés qui combat l'armée régulière dans les deux zones anglophones du Cameroun. Interpellé le week-end dernier, Tchoboyi Alphonse alias Général était activement recherché depuis plusieurs semaines selon les sources de sécurité pour notamment violence contre les populations. Seule fausse note, son interpellation a été accompagnée d'agissements contraires au respect des droits humains d'au moins 4 gendarmes que l'on peut apercevoir sur la vidéo. Ces gendarmes seront sanctionnés après identification, mentionne le communiqué du ministère de la Défense. Ce n'est pas la première fois que des cas de violation des droits humains sont retenus contre les forces de défense et de sécurité camerounaises déployées en zone anglophone. Le 7 mai dernier, le général commandant des troupes dans la région du Sud-Ouest avait été limogé. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Au Tchad, les heures de travail passeront de 37 à 40 heures. C'est une injonction du président Idriss Déby Itno qui veut contraindre les travailleurs à, je cite, « une obligation de résultat ». Mais pour Banca Michel, président de l'Union des syndicats du Tchad, le problème de l'administration tchadienne est ailleurs. On l'écoute.
Les nominations à des postes de responsabilité sont des nominations politiques. Si c'est pas politique, c'est basé sur le népotisme. Si c'est pas le népotisme, c'est la corruption. Deuxièmement, les conditions dans lesquelles les gens travaillent aujourd'hui ne peuvent pas donner un rendement important. Les gens sont parfois dans l'obscurité. Ils sont dans 45 degrés. Autant d'éléments qui nous amènent à dire simplement à M. Déby, avec ces gens-là, même s'ils donnent 50 heures, il n'y aura pas un rendement. Aujourd'hui, le problème réside dans l'organisation du travail. Ce n'est pas le problème de nombre de travail.
Banca Michel, président de l'Union des syndicats du Tchad, et pour terminer dossier Corée du Nord, la Maison-Blanche a toujours bon espoir que le sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un aura lieu malgré les menaces de Pyongyang de tout annuler. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi la porte-parole de la Maison-Blanche Sarah Sanders. La Corée du Nord a menacé mercredi d'annuler le sommet si Washington cherchait à l'acculer à renoncer unilatéralement à son arsenal nucléaire. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.